Le festival a fermé ses portes hier soir et comme le veut le rituel, la cérémonie de clôture s'est déroulée au casino vers 19h avec l'avant-première du film Dernier étage, gauche-gauche, en présence de son réalisateur Angelo Chianci et de l'un des acteurs Hippolyte Girardot. Juste avant le film, on a assisté aux traditionnelles délibérations des jurys ainsi que les remises des prix qui les accompagnent. Et avant de vous communiquer les résultats, on revient sur le film Potiche qui lui était présenté en ouverture du festival. François Ozon, le réalisateur, nous a accordé une interview pour nous parler de son film. On l'écoute.
Pourriez-vous raconter un peu la genèse de ce film ?
Alors la genèse a été la découverte d'abord de la pièce que j'ai vue en DVD. Je suis tombé par hasard sur le DVD avec Jacqueline Maillan, une espèce de théâtre ce soir. J'ai vu la pièce, j'ai trouvé ça extrêmement drôle et je me suis dit c'est un rôle incroyable pour une actrice. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me détacher de Jacqueline Maillan. J'ai mis du temps, enfin bon, je me suis dit mais qui peut jouer quelque chose comme ça après Jacqueline Maillan ? Et puis, j'y repensais régulièrement. J'ai rencontré un des auteurs de la pièce, Pierre Barillet, avec qui j'ai sympathisé, donc lui qui était ravi que j'ai le projet de l'adapter, mais je lui disais voilà, je bute sur plusieurs choses, notamment la fin de la pièce. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me semblaient avoir vieilli, un peu démodé, un peu désuet. Et puis il y a eu la dernière présidentielle 2007 où il y a eu pour la première fois l'opposition d'un homme et d'une femme au second tour, et j'ai eu l'impression que pendant toute cette période il y a eu des relents de machisme, de misogynie, et du coup j'ai relu la pièce à l'aune de ça. Et je me suis rendu compte que finalement les choses n'avaient peut-être pas tellement changé. Alors je me suis lancé un peu dans l'adaptation et en même temps je me suis posé la question, est-ce que je mets l'histoire aujourd'hui, parce que l'histoire de séquestration de patrons, de grève, de position de la femme, c'est toujours d'actualité, ou est-ce que je le laisse dans les années 70-80? Et je me suis rendu compte que si je le faisais aujourd'hui, ça pouvait être plus un film dramatique. Parce que c'est le quotidien de beaucoup de gens, enfin bon. Et si je le laissais dans les années 70, c'est la réalité de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était une vraie période de crise, il y avait la crise du pétrole, il commençait à y avoir beaucoup de chômage, il y avait des séquestrations de patrons, enfin bon, tout ça était déjà présent, et puis il y avait aussi un président, Giscard, qui voulait être en rupture, comme un peu Sarkozy au début de sa mandature. Donc en fait, il y avait plein de points communs avec l'époque. Donc je me suis dit, autant le garder en 70, comme ça va me permettre de garder le ton de comédie et qu'il y ait une distance.
Et quel est le regard justement de Pierre Barillet sur le film ?
Pierre Barillet, il était génial parce qu'il m'a laissé vraiment transformer les choses. Il m'a laissé déjà faire des coupes absolument énormes. Et puis aussi, toute la dernière partie n'était pas dans la pièce. En fait, la pièce se terminait avec Suzanne revenait à lui... Pujol revenait à l'usine et Suzanne était à patronne et puis c'était fini. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait encore un épisode, qu'il se passe encore des choses. Donc ça, il m'a complètement laissé faire. Et puis, il m'a laissé aussi couper. Et surtout, le gros travail de l'adaptation, ça a été de déplacer, enfin, créer des lieux, aérer la pièce. Parce que dans la pièce, tout se passait dans la maison bourgeoise. Là, on montre l'usine, on montre le badaboum, on montre l'appartement de Babin, tout ça, qui n'existait pas.
Dans la première partie du film, on sent que le rythme est très dynamique. Il n'y a pratiquement pas de temps mort dans les dialogues, qui sont interprétés presque de façon mécanique, un peu comme au théâtre pour le côté boulevard. Et puis dans la deuxième partie, plus on rentre dans l'intrigue et plus on glisse vers un peu le mélodrame, plus les personnages et plus la caméra prennent le temps de se parler, si je puis dire. Pourquoi ce choix de partager en deux un peu ces deux périodes dans le film ?
J'avais envie d'assumer la part théâtrale au début du film, c'est-à-dire effectivement qu'on soit plus dans la mécanique et qu'on est vraiment dans la comédie. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de commencer un peu avec les stéréotypes, les clichés sur les personnages, et puis après développer les personnages, montrer que c'est plus complexe, c'est pas tout noir ou tout blanc, et que les choses sont plus profondes. Et c'est ça qui m'a intéressé, d'amener cette progression, cette évolution. Et puis aussi, même dans la forme, au début, j'assume l'aspect théâtral parce que ça se passe dans la maison. Et puis petit à petit, on sort de cette maison et on découvre le monde avec les yeux de Suzanne. Donc on découvre le monde extérieur. Donc les choses deviennent plus réalistes, plus ancrées dans une réalité. Et pour moi, c'était important, au contraire d'un film que j'ai fait avant qui s'appelait 8 femmes, qui se passait intégralement en intérieur et on jouait vraiment l'artifice tout le temps. Là, il me semblait qu'il fallait commencer dans l'artifice pour aller vers quelque chose qui est plus l'ordre du réalisme et presque, j'exagère, mais presque du documentaire dans la dernière scène. Parce que la dernière scène, quand Catherine est dans la foule, c'est le personnage, mais on se dit aussi c'est Catherine Deneuve avec... c'est l'actrice de cinéma qui avec les fans et qui est bon. Donc il y avait cette idée d'aller vers le plus de réalisme possible.
Pour le rôle de Catherine Deneuve, est-ce que le choix s'est fait instantanément ou est-ce que vous avez eu d'autres idées pour le casting au départ ?
Catherine a été ma première idée, mais j'ai craint qu'elle me dise non. Donc je me disais, à qui d'autre ? Alors je voyais aucune actrice autre qu'elle pour jouer le rôle. Enfin, j'avais en tout cas envie d'aucune autre actrice. Je pense que plein d'actrices auraient pu le jouer. Mais à un moment, je me suis dit, et si je proposais un homme ? Et j'ai pensé à Fabrice Luchini pour jouer le rôle de la potiche habillée en femme. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop distancié. Mais je trouvais ça drôle que ce soit un homme qui joue une femme humiliée et offensée. Voilà.
Les élections législatives de la dernière partie du film, elles existaient à l'origine dans la pièce ?
Ça, c'était pas du tout dans la pièce. Non. À partir du moment où vraiment la pièce... Disons que j'ai fait beaucoup de changements aussi avant, mais le gros changement, c'est à partir du moment où Pujol revient et qu'il y a toute l'histoire avec le... Comment ça s'appelle ? Le rapport de Joël sur les délocalisations, tout ça, il n'y avait pas. Et la nouvelle grève qui est provoquée et le retournement du conseil d'administration contre Suzanne Pujol. La trahison de sa fille, tout ça, jusqu'à la fin.
Et beaucoup de gens pensent que vous vous êtes inspiré un peu de Ségolène Royal pour le rôle de Catherine Deneuve.
Ségolène Royal, non, pas vraiment directement, mais disons que j'avais en tête l'opposition, la confrontation Royal-Sarkozy. Par hasard, quelques petites phrases sont venues dans le dialogue. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais les gens les... Il y en a même une de Laurent Fabius. Laurent Fabius qui avait dit, quand Ségolène Royal a été choisie par le Parti Socialiste, elle a dit, mais qui est-ce qui va s'occuper des gosses ? Voilà, et ben ça, Pujol le dit. Mais les gens s'en souviennent plus. C'est vrai que les phrases de Sarkozy, maintenant, c'est rentré dans le langage commun, quoi. Même les gamins à l'école disent ça en cours de récréation.
Pourquoi avoir choisi de situer ce film dans les années 70 ? C'est par nostalgie ou parce que vous êtes fan de cette période ?
C'est mon enfance, donc je ne suis pas fan particulièrement. C'est mon enfance, moi j'ai baigné, voilà, j'avais 9 ans en 77, donc toutes ces chansons, je les ai entendues petit, ces costumes, ces coiffures, tout ça, c'est plein de souvenirs. Et puis la moquette sur le téléphone, là, vous savez, le truc ce qu'avait chez ma grand-mère. C'est kitsch, mais c'est la réalité, hein, vous savez, les gens trouvent ça kitsch, mais le film est assez réaliste, hein, sur les décors, tout ça. Vous regardez les films de l'époque, ça ressemble à ça.
Pouvez-nous parler des chansons et de la musique qui accompagnent le film ?
Moi, je voulais vraiment que le spectateur soit plongé dans les années 70. Qu'on soit complètement dans cette période, donc la musique sert à ça. J'ai demandé à Philippe Rombi de s'inspirer un petit peu des musiques qu'il y avait de l'époque dans les comédies de Louis de Funès. Donc il y a toute cette ambiance qui participe à vraiment faire un film d'époque en fait, hein, parce que les années 70 c'était il y a 30 ans, mais bon, on se rend compte que beaucoup de choses ont changé, enfin, sur les costumes, sur le décor, sur toutes ces choses-là, pas forcément dans les relations hommes-femmes, mais...
Il y a quand même une évolution aussi vestimentaire de Catherine Deneuve tout au long du film. Oui. Est-ce que c'est lié, forcément, je pense, avec la notion de pouvoir qui grandit petit à petit ?
Moi, ça m'intéresse toujours dans un film, quand on raconte l'évolution ou l'émancipation d'un personnage, de montrer ça, pas forcément que par les scènes, le montrer aussi par les costumes, par les coiffures, par la manière de se comporter. Donc c'est vrai qu'on a eu l'idée, avec la costumière et le coiffeur sur Catherine, de l'ancrer au début vraiment dans le rôle de cette petite dame de province, d'ailleurs qui n'est pas très années 70, elle est plus années 50, années 60, dans la manière dont elle est habillée. La coiffure, c'est plus la reine Fabiola, enfin bon, elle est un peu ringarde, même par rapport aux années 70. C'est la fille qui est branchée, années 70, elle est vraiment à la mode, Judith Godrèche, en ressemblant à Farrah Fawcett, c'est vraiment l'époque. Et la mère, donc, on l'a fait, le rôle de Suzanne Pujol se transforme petit à petit. Et c'est vrai qu'avec Catherine, on s'est amusé à travers les costumes, à montrer cette émancipation. Et à la fin, elle est années 80, en fait. Elle a le brushing années 80, elle a un costume qui est plus années 80 qu'années 70.
Et ce show un peu disco au Badaboum, qui paraît dans le film un peu de façon décalée, est-ce que c'est un hommage au couple Depardieu de Neuf ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de cette scène ?
Oui, pour moi, c'était une scène très importante. J'aimais beaucoup les dialogues entre Catherine et Gérard dans la pièce, qui dans la pièce étaient joués de manière très comique. Et moi, je trouvais ça pas du tout comique, je trouvais ça même plutôt assez émouvant. Et donc, j'avais envie qu'il y ait ces moments un peu au cœur du film, qui soient... plus mélancolique et plus, je dirais pas dramatique, mais plus Oui, un peu sur la mélancolie, sur l'histoire de deux personnes après 60 ans qui se demandent est-ce que c'est encore possible d'avoir une histoire d'amour. Je trouvais que c'était assez juste et assez beau. Donc j'ai eu envie aussi de les voir danser parce que c'est vrai que le couple Deneuve Depardieu, c'est un couple mythique du cinéma français. Ils ont déjà fait plus de, je crois, 6 ou 7 films ensemble. Et pour moi, en tant que cinéphile, c'était un rêve de les avoir tous les deux. Donc j'ai eu envie de les voir danser. C'était très compliqué à faire, mais on y est arrivé. Et puis surtout, c'était très émouvant parce qu'on... tous les deux, il y a une vraie complicité, ils s'aiment beaucoup, donc ça se sent, je pense, dans la scène. Et même si la scène est très artificielle, en même temps, il y a un moment de vérité, quoi, d'émotion qui naît de les voir tous les deux ensemble.
Il y a un autre clin d'œil aussi qui est fait au travers de la musique, toujours avec la chanson de Jean Ferrat, qui est à la fin du film, est entendue d'ailleurs à la radio par un Gérard Depardieu, plutôt émouvant. Est-ce que c'est une scène improvisée ou est-ce que c'était déjà pensé d'avance ?
La scène quand Catherine chante, c'était pas improvisé. Ce qui est improvisé, c'est que Gérard l'écoute, ouais. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait la dernière scène entre Catherine et Gérard, c'était la scène au téléphone où ils se parlent, où il apprend qu'il a perdu, enfin bon, les élections. Et je trouvais que cette scène un peu triste, et j'avais envie de revoir Gérard. Je trouvais que le personnage de Gérard était très émouvant, j'ai dit à Gérard, tiens, on a enregistré la chanson, et je lui ai balancé la chanson, et il a fait une prise comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant que je coupe, après, il se mettait à hurler, à chanter « C'est beau la vie ». Bon, évidemment, je ne l'ai pas monté dans le film.
Place au résultat, il y avait 9 films en compétition cette année. Le prix de la critique décerné par les professionnels de la presse a été attribué à « Comment j'ai passé cet été » du réalisateur russe Alexei Popogrebski. Le prix du public, quant à lui, a été décerné au film espagnol « Haiti et Guinean ». L'atlas d'argent de la mise en scène, c'est pour le film roumain « La médaille d'honneur ». Et comme l'an passé avec « The Girl », c'est la Suède qui remporte l'Atlas d'or avec le film de Jörgen Bergmark, Rational Solution. A savoir également qu'il y a eu, lors des délibérations, beaucoup d'hésitations avec certains films, dont Der Albaner et Protector. Quant à moi, j'ai parcouru un bon nombre de fois le tapis rouge menant aux salles de ciné, et donc j'ai vu un bon nombre de films, et notamment ceux en compétition. Et j'ai décidé d'attribuer un prix à un film, au nom de PFM, rien à gagner sauf peut-être l'estime de quelques auditrices et auditeurs. Donc j'attribue le prix du meilleur film de ce festival pour son envergure novatrice, sa créativité labyrinthique, son esthétisme artistique et surtout parce que ce film prouve que tout est possible au cinéma. Donc le grand gagnant pour moi est le réalisateur polonais Paweł Borowski et son provocateur film Zéro. Le titre parle évidemment de lui-même, puisqu'il n'a rien gagné au cours de cette compétition, mais si j'ai un conseil à donner aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, et si vous n'avez pas peur de voir un film où il n'y a pas une histoire mais 30, où les personnages qui évoluent, et ils sont très nombreux, n'ont pas de nom, ces mêmes personnages qui se déplacent dans une ville également sans nom, qui ne se connaissent pas, mais sont attirés les uns vers les autres contre leur gré. Et si vous ne craignez pas d'être bousculé et provoqué par un réalisateur démoniaque et génial, et si enfin vous n'avez pas peur de regarder votre voisinage ou vos proches autrement, eh bien Zéro est le film qu'il vous faut pour cette année. Ainsi s'achève ce dernier épisode du journal du cinéma à QV 2010. Prochain rendez-vous, si tout va bien, en 2011. Salut !